Radio Espiole, l'émission Trait d'Union, en compagnie aujourd'hui de Aurélie, bonjour.
Bonjour.
Eric, bonjour.
Bonjour Bruno.
Et Guillaume.
Bonjour.
Nous allons aborder plusieurs sujets, les maisons de famille, le travail social. On va laisser parler Yvette qui va nous parler de son parcours de vie. Aurélie, tu pourrais peut-être faire la présentation de l'association qui porte la pension de famille.
Tout à fait. Alors, la pension de famille de Bailleul fait partie du pôle inclusion sociale Lille Métropole de l'association ALEFPA. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. C'est une association au service des enfants comme des adultes, en situation de vulnérabilité physique, sociale ou d'âge. Elle intervient dans les domaines sanitaires, social et médico-social, ce qui représente environ 300 sites, établissements, lieux d'accueil et services. En France, c'est dans les départements outre-mer. Aussi, c'est 4000 salariés et plus de 20 000 personnes accompagnées chaque année.
On peut y rentrer à partir de quel âge dans cette maison de famille ?
Alors, en pension de famille, il n'y a plus de critères d'âge. Il y a des critères d'admission. Alors, les critères d'admission, il faut... pour être éligible à ce dispositif, il est nécessaire de remplir certains critères, principalement axés sur la situation sociale, psychologique des personnes. Il y a des critères de parcours. Alors souvent, on est sur des personnes qui ont connu des parcours de rue, des structures d'hébergement. Il y a aussi des critères de ressources. Alors au niveau des critères de ressources, pour vous situer, c'est maximum 2 RSA. Voilà. Et après, il y a toute une démarche aussi pour... toute demande d'admission, ils doivent être inscrits en fait sur une plateforme SISIAO, alors service intégré d'accueil et d'orientation, pour une évaluation. Et ensuite, si la personne, la candidature répond aux critères d'éligibilité, les dossiers nous sont transmis directement via notre plateforme pour rencontrer la personne et nous organisons en fait des commissions en interne.
Ces résidents sont autonomes, ils ont un petit appartement. Ils sont chez eux.
Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on est sur... Alors, la structure, la pension de famille d'Aïeul a une capacité d'accueil de 25 résidents. C'est 25 studios d'environ 20 mètres carrés. Tout équipé, c'est des logements meublés. Effectivement, 25 studios meublés.
Il n'y a aucune comparaison avec ce qu'on appelle aujourd'hui un EHPAD.
Non, on est une structure, on est du logement adapté, une EHPAD, on est sur un établissement médico-social. La différence, on est sur des personnes autonomes, accueillies et avec une capacité d'autonomie, avec présence éducative le soir et le week-end. Il n'y a pas de présence éducative. Là, voilà, c'est cette particularité.
Ça veut dire qu'on peut réaliser ses repas, on est complètement autonome, on peut décorer son appartement comme on a envie.
Tout à fait, tout à fait. Les résidents, en fait, ils ont un statut de résident, mais un contrat d'occupation et effectivement sont autonomes dans leur logement et effectivement les repas, ils ont tout le dispositif pour pouvoir réaliser leurs repas. Mais en parallèle, effectivement, comme il y a une présence éducative, des ateliers peuvent être proposés comme des ateliers cuisine en collectif.
Il y a un bail renouvelable, je suppose.
Alors oui, c'est des contrats d'occupation d'un mois renouvelables par tacite reconduction, c'est le terme juridique, mais effectivement, il n'y a pas de durée. C'est vraiment la personne rentre, il n'y a pas de durée, de limite. Il faut que le projet de la personne corresponde toujours, soit en adéquation avec... le maintien en pension de famille. Voilà.
Merci à toi. Guillaume, toi-même, oui. Tu es travailleur social.
Tout à fait, oui.
Dans une maison de famille.
Oui.
Comment tu arrives à réaliser ce métier ? Il y a une passion déjà ?
Eh bien, effectivement,
l'idée... Parce que c'est l'humain.
C'est bosser avec l'humain. Avec l'humain et prendre en compte leur parcours de vie et essayer de répondre aussi à leurs besoins et demandes. Les usagers, quand ils rentrent chez nous, ont souvent un parcours assez atypique, hein, comme disait Aurélie. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi les accompagner au quotidien et pouvoir répondre à leurs demandes. Des réponses liées à l'emploi, liées aussi aux besoins de formation, le besoin de retrouver un logement autonome par la suite. On reste vraiment un tremplin.
Il y a des activités culturelles ou sportives dans...
Oui, effectivement, on a un planning à la semaine hein, qui est fait avec les résidents. On prend en compte leurs besoins, leurs demandes. On essaie d'y répondre au mieux. On travaille souvent à des projets avec l'ARS.
Donc l'Agence régionale
de santé. Effectivement. Où on va travailler des projets liés. En ce moment, on travaille sur des projets de cuisine. On travaille sur des projets potagers également. Au niveau de la culture, on est toujours en lien avec les centres sociaux de Bailleul. Auparavant, avec le CES, avec Hasbrouck, on avait un intervenant culturel. Mais aussi, on fait découvrir la région. Là, il y avait le dispositif Arpenteur l'an passé et on a visité les Flandres avec ce parcours d'Arpenteur qui était magnifique d'ailleurs.
Et les résidences peuvent être force de proposition par rapport à des activités ?
Ils sont. On prend toujours en considération leurs besoins. On ne va jamais nous créer une action sans leur demander. Bien sûr, c'est eux qui résident là. C'est à eux de savoir ce qu'ils veulent faire avec les moyens et les limites qu'on peut aussi y apporter.
Ouais. Ton travail d'accompagnement, c'est culturel ?
Non. On va vraiment avoir tous les spectres de l'accompagnement. Les spectres administratifs, le maintien des ressources, le maintien du droit commun, avoir avoir tous ces droits ouverts.
Ouais.
Et après, on répond aux besoins de chacun.
Parfois, tu deviens confident pour ces résidents ?
On a une certaine intimité, effectivement. On entend des choses qui sont propres à notre accompagnement qu'on ne va pas révéler.
Non, c'est comme le secret de la confession.
C'est ça. Pour la plupart, on est peut-être leur dernier lien, avec leur lien social qui est peut-être disparu, amoindri, ou ils n'ont pas envie de parler avec leur famille de leurs problèmes.
Ouais. Je vous propose une première plage musicale. Alors, je vais préciser que toute la musique, ce sera les artistes que vous allez retrouver le 7 juin à la Hulenfest, c'est-à-dire le duo Pilates Gehlen et la société fraternelle des Cornemuses. L'émission Trait d'Union. Et maintenant, nous allons donner parole aux résidents de la pension de famille. Et on va commencer par Yvette. Yvette, bonjour.
Bonjour. Bon, voilà, je m'appelle Yvette, j'ai 70 ans. Et ancienne de la LFPA, j'ai en tout 15 ans de rue de galère.
On va en parler.
Donc voilà. Je me suis retrouvée à la rue à l'âge de 15 ans. Mais ça a commencé à faire à peser quand même. Ouais. Et suite à ça, à traîner dehors par n'importe quel temps, bon, la santé n'y est plus. Quoi. Ouais.
On vit de quelle façon quand on vit dans la rue, et en plus quand on est une femme, ça doit être
compliqué. Début, c'est dur. Hein. Oui, au début, c'est dur. Puis ce qu'il faut, c'est, en tant que femme, pas se trouver tout seul. Ou être en groupe, tout en groupe, et surtout pas traîner dans les rues le soir ou un truc comme ça. Enfin, moi, je me suis jamais fait voler, ni violer, ni quoi que ce soit.
C'est une bonne chose.
Là-dessus, je touche du bois, oui. Surtout que j'étais pas mal dans la rue sur l'île, et l'île, c'est...
Ouais, c'est un peu craignos, quand même,
ouais,
on va dire.
C'est un quartier chaud, ouais.
C'était un moulin, je crois, c'est ça?
Ouais, et j'ai été à l'île sud aussi. Bon, enfin, j'ai fait à la gare, voilà, où je trouvais moyen de me réfugier.
Ça se passe de quelle façon une journée pour une personne qui est à la rue?
Ben, c'est-à-dire que nous, on est obligé de trouver ce qu'on appelle des squats chez nous, ou alors on dort n'importe où.
Tu dormais sur des cartons, des choses de ce genre-là?
Ouais, on mettait, et c'est pas croyable, parce qu'on mettait des cartons pour pas avoir froid, ou alors des journaux. Mais le lendemain matin, si quelquefois on avait sué un peu, on pouvait lire le journal sur nous. Quoi. Mais il fallait partir. Et puis, moi, je ne cache pas pour le dire, je faisais la manche beaucoup. Donc, voilà. Et les gens, ils ne sont pas obligés de donner. Mais quelquefois, un sourire où ils venaient nous parler, on en avait assez, ça nous réconfortait. Quoi. Après, j'ai fait le 115, le SIAO. Et j'ai fait beaucoup de foyers. Mais les foyers, moi je restais pas. Donc,
pourquoi parfois tu faisais des mauvaises rencontres peut-être?
Non, pas ça, mais bon, je sais pas. Certains foyers, ça me plaisait pas, donc je restais pas. Et bon, par ma faute, je me retrouvais à la rue. Quoi. Et le dernier que j'ai fait, c'était sur Dunkerque. J'ai resté 3 mois à la rue. Et j'ai fait le SIAO.
Et comme c'est quoi le SIAO?
Le SIAO, c'est 115. Chez
d'accord.
Nous, c'est 115. Et j'ai été convoquée par la séance sociale, puis elle me dit, écoute Yvette, je veux bien encore essayer, mais elle dit, tes têtes de mule, tu restes jamais nulle part. Donc, elle dit, la dernière chance. On trouvait un foyer pour femmes à Saint-Paul-sur-Mer. C'est foyer Louise Michel, 1967 avenue Petite-Sainte à Dunkerque. Et là, je suis restée 7 mois.
Et pour quelle raison tu restais pas? Il y avait un mal-être, il y avait...
Non, mais tout simplement parce que certainement j'avais l'habitude, j'ai pas l'habitude de rester enfermée. Et après, bon ben, je suis restée 7 mois au foyer de pour femmes là. Ben, si j'avais pas de logement, ils auraient renouvelé. Hein. Ouais. Mais ils ont vu que je voulais m'en sortir. Ils ont fait des démarches pour me trouver un foyer. Ou une pension de famille. Et ils avaient trouvé une pension de famille du côté de la gare, à côté du foyer Loflu, qui était pour les hommes. Je devais intégrer là, puis ils ont eu un imprévu. Donc ils ont appelé, j'ai pas pu intégrer. Donc ils m'avaient proposé Nice. Oh, je dis non. Nice, ça fait trop loin. Moi, j'ai l'habitude dans le Nord-Pas-de-Calais. Après, ils me disent, bah, écoute, bah, Yvette, il y aurait Bailleul pour toi. Bah, marchons pour Bailleul. Hein. Et bon, je suis allé visiter. Mais j'ai vu Aurélie, Gaël, Guillaume. Et j'ai intégré la pension de famille. Et
aujourd'hui, tu t'y sens bien? Tu te sens heureuse?
Aujourd'hui, j'y suis. Puis moi, je suis rentrée en EHPAD depuis le 24 décembre. Mais c'est mon choix, c'est moi qui l'a demandé.
Dans cette vie à l'extérieur, dans cette vie de sans-abri, tu as ressenti de la compassion de certaines personnes, de l'écoute?
Ouais, parce que il y a des gens, c'est vrai que ils nous aidaient pas mal, hein, même en étant à la rue, je crois. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui m'ont aidé, tout ça. J'avais le Secours catholique, la Croix-Rouge. Le soir, on avait la marotte qui passait pour les repas, tout ça, et on pouvait discuter avec eux. C'était vraiment.
Une relation humaine.
Ou alors, c'était vraiment très bien. Hein. Et à Dunkerque, ils avaient fait, ça s'appelait l'estaminet. On pouvait aller déjeuner le matin, manger à midi. Bon, ceux qui avaient des ressources, c'était 1 euro les repas. C'est pas énorme.
Non.
S'ils en avaient pas, bon, ils mangeaient gratuit. Et le soir aussi. Et on pouvait aller se laver, il y avait des douches, et puis s'habiller, tout ça. Mais après, la journée, après les repas... On ne pouvait pas rester là, quoi. Je veux dire, on était dehors.
Mais est-ce que vous diriez, Myriam, Eric, que ça vous a permis une certaine sérénité, on va dire, la pension de famille à Bailleul?
Ouais.
Parce que on, malgré, je vais le dire comme ça, mais malgré toutes les embûches que vous avez vécues, on sent une certaine sérénité. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Hein,
non, mais voilà, je veux dire que j'ai été étonnée moi-même. Ce que j'ai dit à ma référente Gaëlle et puis Aurélie, elle le sait. C'est parce que je suis restée un an, là. Je suis partie le 24 décembre pour la LFPA. Je me suis étonnée moi-même que j'ai resté aussi longtemps en pension de famille. Je me sentais bien là-bas. J'ai jamais eu de problème avec personne. Voilà.
Et qu'est-ce qui fait que vous êtes restée aussi longtemps?
Je me sentais bien, je me sentais chez moi. Voilà. C'est vrai que comme Aurélie, elle a dit, on pouvait faire sa petite cuisine, tandis que quand on est dehors, il y a des jours où on mange, il y a des jours où on mange pas. On pouvait faire sa petite cuisine, on lavait son appartement, on faisait sa lessive nous-mêmes, il fallait descendre mettre le linge, et voilà.
Vivre dans la rue, il n'y a pas une crainte de tomber dans l'alcoolisme?
Si.
Je pense, hein.
Ouais. Si,
parce que c'est
obligé,
un palliatif, on va
on
dire.
Est obligé quand on tombe dans la rue, on est obligé. Mais ça va, j'ai eu beaucoup d'aide quand même, je suis remontée.
Aujourd'hui, on peut dire que tu es heureuse.
Oui, je suis très bien et je souhaite que d'autres personnes arrivent à mon stade et puis.
Voilà. Arrivent à s'en sortir.
Voilà. Parce que c'est dur. C'est dur pour.
Me doute. J'ai. Passer la parole à David, qui a aussi une expérience de vie assez particulière. Le fait de rentrer en pension de famille, ça t'a donné un certain apaisement?
Oui.
Raconte-nous un peu la vie que tu avais avant.
Alors, c'est vraiment une histoire compliquée.
Ah.
Ouais. Dans le temps, j'ai vécu pendant... jusqu'à l'âge de 34 ans chez mes parents. Après, de là, je suis parti j'ai trouvé un appartement à Orchy, à la Retombe. En dessous, c'était un café. Et moi, j'habite au-dessus. De là, je suis parti dans un appartement dans les anciens bureaux de la Chicorée-le-Roux.
Bien connu.
Voilà, que j'ai habité 7 ans tout seul. Après, j'avais connu quelqu'un. Après, je suis parti sur Armentière, j'ai fait Oupine, Après, j'ai refait Armentières parce que là, je suis atterri dans un foyer d'hébergement d'urgence. Mais avant ça, j'avais fait le foyer Bethel à Tourcoing. Après, j'ai fait le foyer à Douai, côté de la Croix-Rouge. Et après, je suis atterri à Armentières. Et entre deux, comme il faisait un peu froid, comme je dormais dans ma voiture, je me suis dit, j'ai essayé de rentrer dans un foyer.
Tu arrives comment à la rue? Ça arrive du
jour au lendemain. Disons que le temps, j'ai fait beaucoup de fugues chez mes parents.
Hein.
Oui. Je prenais ma voiture et puis j'allais dans un coin derrière une église ou n'importe et puis je dormais dans ma voiture.
Ah ouais.
Ouais,
parce ça que doit j'étais être dur parfois quand même.
J'étais plus souvent en guerre avec mon père que. Des fois, je n'aimais pas le temps de démarrer ma voiture qu'il courait derrière moi. Hein.
Ah ouais. Eric, peut-être?
Oui, intervenir. Quand on vous écoute, David. On se dit de la même façon qu'Yvette, mais autrement. Hein, c'est une certaine sérénité, un apaisement qu'on trouve à travers la pension de famille. Et stabilité. Comment vous expliquez que... Parce que là, vous me dites que vous avez eu un parcours quand même avec beaucoup de... voyages dans la région.
D'errance, on va dire.
D'errance ou de voyage. Mais qu'est-ce qui vous a stabilisé dans la pension de famille? Comment vous...
Disons que comme j'étais au foyer à la FR d'Armentières, c'est un foyer roubaisien. Et du coup, j'ai su que comme j'avais une personne qui était dans le même foyer que moi, et j'allais souvent je pensais qu'il habitait du côté de mon cabaret, mon zabaret, j'ai dit c'est tout. Verra bien. Et puis une fois il m'a dit non, j'habite pas là-bas, j'habite à Armentières. Et j'allais souvent chez lui boire un café, discuter, fumer une cigarette, et voilà. Et c'est là que une éducatrice, Violette, et Aurélie, ils ont dit, oui, il y a un déménagement. Et du coup, je suis venu donner un coup de main, et c'est là que j'ai rencontré Guillaume. Et du coup, ben, j'aurais donné un coup de main, monter des meubles, des lits. Moi, j'aime bien de bricoler. Hein. Et du coup, ben, c'est le jour-là que Guillaume il m'a dit, j'espère qu'un jour, on te reverra.
D'accord.
Donc, et du coup, ben, j'ai fait un dossier, puis voilà.
Ça a marché. Dans cette maison de famille, c'est une intimité retrouvée, c'est un investissement dans ton logement?
Oui, c'est parce que bon, là au foyer où est-ce que j'étais avant, on était à plusieurs dans une chambre. Là, on était à deux, même pas 5 mètres carrés, que je payais un loyer...
Exorbitant.
Exorbitant, ouais, si j'arrive à dire. Et du coup, ben, je payais quand même 303 euros, même pas pour un mètre, 5 mètres carrés. Ça fait cher.
T'avais bon. Un côté insalubre?
Ouais, ouais.
C'est ce qu'on appelle les marchands.
Ouais, il y avait beaucoup d'humidité, tout ça. Et puis, bon, il y avait beaucoup de résidents en bas. Et puis, que, voilà. Et là, depuis que je suis arrivé là, j'arrive mieux à respirer, moins malade. Et là, je peux faire ma cuisine, je peux sortir et rentrer à l'heure que je veux. Et puis, voilà. Ouais.
Tu te projettes aujourd'hui dans l'avenir que tu n'avais peut-être pas auparavant?
C'est quoi vous voulez dire
ben, je veux dire, ben, t'as des envies, t'as des passions, t'as envie de faire des choses.
Ouais, ouais, c'est de, déjà...
Dans ton appartement, ben, t'avais l'impression que la ville s'était refermée sur toi.
Ouais.
T'étais un mort-vivant, quoi.
Voilà, ouais, exactement, ouais.
Si je peux me permettre.
Ça peut être du bénévolat, des projets.
Voilà,
des
ouais, déjà acheter une voiture et faire du bénévolat dans n'importe quel métier. Comme j'ai déjà fait presque tous les métiers, alors... Moi, je prends tout ce qu'on va me donner, je le prends.
Ouais, on sent que t'es volontaire.
Voilà, ouais.
C'est ça qui est bien. Je vous propose une plage musicale. Et là, ce sera avec la Société Fraternelle des Corps de Muse, qui sera présente le 7 juin à la Wielenfest à Gasselen. Thierry, bonjour.
Bonjour Bruno.
Bienvenue dans les studios.
Merci.
Tu peux nous raconter un peu ton passé, ton histoire, comment tu arrives à la maison de famille
parce
si
que
c'est pas indiscret.
Non, parce que j'avais une maison très humide. Là, j'ai fait passer des gens de la mairie et qui ont déclaré la maison
insalubre.
Ouais. Et j'avais des menaces aussi des propriétaires. parce qu'ils voulaient vendre plus vite la maison.
Ouais. Je crois qu'à un moment, tu étais pratiquement emprisonné dans ta propre maison. Tu ne savais plus sortir.
Non, parce que j'avais des menaces d'un dealer qui a perdu sa marchandise. Il y a un gars qui m'a dit que c'était moi qui avais volé. Il voulait me planter, c'est tout.
Ah ouais.
Je devais faire attention quand je sortais dehors.
Il y a une certaine peur qui se révèle alors, quand il y a des menaces comme celle-là.
Je suis rentré chez moi, je suis isolé pendant quelques temps, et après j'ai décidé de ressortir, parce qu'il faut mieux manger. Il y avait des heures pour sortir. Aussi le matin, il n'y avait personne, alors j'allais faire mes courses. Et après l'après-midi, je restais chez moi.
Vivre à la pension de famille, c'est retrouver une sécurité?
Oui, on retrouve une stabilité, ouais, on prend de confiance, voilà, et on est en sécurité.
Thierry, je pense que tu voulais intervenir.
Oui, je voulais demander à Thierry, par rapport à ce qu'il évoque dans la première partie, comment on arrive ensuite à la pension de famille, quoi. Parce que dans cette situation, finalement, ce que vous décrivez, c'est la sécurité.
Moi, c'est grâce à une assistance sociale et à une association qui s'appelle Solia. C'est avant, mon dossier n'était pas prioritaire, mais comme j'ai raconté comme quoi j'avais des menaces, là, ils ont pris mon dossier en main. Et là, c'est là qu'ils m'ont parlé de la pension familiale que je ne connaissais pas du tout.
Et par rapport à justement cette méconnaissance, le fait que vous débarquiez, si je puis dire, hein, dans la pension de famille, tout de suite, vous avez trouvé votre place?
Non, j'ai mis une semaine ou quelques temps pour se mandater, parce que quand vous passez de Lille à Bagnols, ce n'est pas la même chose, il n'y a pas la même vie.
Il n'y a pas la même population.
Ouais, c'est le CAM qui m'a surpris, parce que chez moi, c'était vraiment bruyant et tout. J'ai retrouvé le CAM et je n'avais pas de chauffage. Je me suis habitué à la chaleur. J'ai dû fermer les radiateurs parce que
t'avais trop chaud.
Trop chaud. c'est idiot, mais c'est comme ça.
La question des... Parce que les pensions de famille, c'est pas non plus... Voilà, vous évoquiez la question des moyens aussi. Ouais. Donc c'est une gestion aussi personnelle. Enfin, voilà, y a quand même une économie. On investit son...
Mais on voulait me diriger dans un appartement, mais comme je ne gagnais pas assez, c'est pour ça qu'ils m'ont mis dans une pension familiale. C'était mieux pour moi, pour mon cas, m'éloigner de Lille et retrouver une sécurité.
Et au niveau de l'investissement dans le logement, vous dites trouver des marques, ça vous a permis vraiment d'investir le logement personnellement.
Oui, j'ai appris à payer un loyer aussi. Parce qu'avant, je vivais avec mon frère, qui payait tout. Et là, je m'habitue à payer un loyer, mettre de l'argent de côté pour le loyer, pour les courses et tout ça. C'est très important de l'assurance de la maison, le téléphone, parce qu'avant, je n'avais pas de portable. Oui, je me suis dû m'habituer à avoir un portable. Parce que quand vous vivez sans portable, maintenant, on est obligé, parce qu'il y a tous les rendez-vous qu'on a.
Bah oui. Sans portable, on est mort.
Mais je ne m'habitue pas toujours au portable. Des fois, je me mélange avec les...
Aujourd'hui, dans la maison de famille, tu te sens chez toi?
Ouais, très bien.
Ta maison.
Je suis à l'aise. Maintenant, en plus, avec les activités qu'on fait, c'est très intéressant. On fait du jardinage, on fait du bricolage, on fait du compost pour faire des économies. On a fait des économies par rapport aux autres années.
Il y a une bonne relation avec les autres personnes qui ont un logement?
Il y a une pièce de commune. Tous les matins, on descend boire un café, on discute entre nous. Pour ceux qui arrivent, c'est très important de descendre. De ne pas rester dans sa chambre.
Ouais.
Parce qu'on est isolé, on prend toujours l'habitude de rester dans sa chambre.
Retrouver une activité sociale.
Ouais, voilà. C'est un truc social, c'est vous descendre. Et voir des projets aussi. Il faut se projeter dans l'avenir aussi.
Et tes projets à toi, c'est quoi? C'est acheter la voiture de Starkey Hutch?
Non. Non, c'était pour le cas de ma retraite, qui était très difficile à faire le dossier. J'ai dû, il n'y a pas longtemps que je touche vraiment mon dossier, grâce aux référents, à Guillaume, à Gaël et à Aurélie, j'ai pu finaliser ma retraite.
Ouais.
C'était très dur.
Ça, c'est une bonne chose.
Ouais.
C'est là qu'on ressent que toutes ces structures, elles sont importantes. Ouais. Peut-être que les gens n'en ont pas conscience.
Non, les gens, ils n'ont pas conscience. Mais les caisses de retraite, c'est très dur à faire. J'ai un conseil aux gens de la préparer à l'avance. Donc, il y a eu beaucoup de papiers à fournir et tout ça, ils sont chiants. C'est l'administration.
Alors, c'est un bon conseil que vous nous donnez, mais alors je précise que pour nos auditeurs que Bruno fait référence au t-shirt de,
ouais.
de Thierry.
Il y a un petit côté d'humour.
Voilà, il y a un petit côté d'humour.
Il y a un truc aussi.
Il
y a un truc qui me surprend aussi, c'est les pensions familiales que les gens ne le connaissent pas. Même dans l'administration, tout ça, il faut toujours expliquer à quoi ça sert une pension familiale. Même les docteurs de Bayeul ne savent pas qu'est-ce que c'est une pension familiale.
Bah, moi, avant de vous avoir rencontré, honnêtement, je savais pas ce que c'était une pension familiale.
Moi, j'explique à chaque fois à quoi que ça sert, avec les projets qu'on a. J'ai dit, on paye un loyer comme tout le monde, on n'est pas là, hébergé gratuitement. Et j'explique tout ça à chaque fois. Je devrais faire des plaquettes, les donner aux personnes.
Et comment vous expliquez, Aurélie et Thierry, mais pourquoi il y a cette méconnaissance des pensions de famille?
C'est un dispositif assez récent, effectivement. Et justement, si je peux rebondir, c'est que depuis 2020, en fait, il existe une semaine nationale des pensions de famille. Et cette année, c'est la 5e édition. Elle aura lieu la semaine prochaine du 19 au 25 mai. En fait, la semaine nationale des pensions de famille est devenue un rendez-vous incontournable pour mettre en lumière ces lieux de vie qui favorisent vraiment la reconstruction et l'insertion sociale. L'objectif premier, c'est vraiment d'accentuer la visibilité du dispositif, particulièrement aux élus riverains, et en mobilisant en fait les résidents sur cette semaine nationale. Et dans ce cadre, nous organisons le 20 mai de 10h à 15h à la pension de famille de Lille, qui se situe 7 rue Chaplin, un moment de convivialité et de nature avec les résidents. Et au programme, il y aura découverte de la structure, atelier jardinage, jeux flamands et collations. Et il est demandé en fait d'apporter une fleur ou un plant de légumes pour embellir le potager et faire de cette journée un moment de partage inoubliable.
Tu arrives comment, toi, dans cette structure comme éducatrice, on va dire?
Comment je suis arrivée? Alors, moi, je fais partie des murs. Ça va faire une quinzaine d'années. Alors, j'ai commencé en tant que travailleur social sur la structure, sur la pension de famille d'Armentières. Et j'ai évolué avec un poste de coordinatrice sur Armentières et celle de Bayeul, ensuite avec la troisième pension de famille du pôle. Et j'ai poursuivi mes études, j'ai passé un CAFER-8, un diplôme, et devenu chef de service de ce dispositif, alors que je connais depuis quelques années. Hein, ça va faire 15 ans que j'évolue sur ce dispositif. Auparavant, je faisais essentiellement de l'accompagnement, tout ce qui était accès maintien dans le logement, pour des personnes en difficulté dans l'accès et le maintien. Voilà, pour faire très court,
c'est un métier que tu pratiques au jour le jour, quoi.
Le jour le jour, après...
Mais je veux dire, par là, il y a aussi, on ressent certaines passions de ta part.
Elle est là, toujours, je pense qu'il faut.
Bon,
je pense,
si on n'est pas passionné, on ne fait pas ce métier.
C'est ça. Moi, là, c'est vrai que le métier de travailleur social...
Parce qu'il y a le métier, il y a l'humain.
C'est ça, je pense que c'est aussi très enrichissant de pouvoir accompagner. On fait de belles rencontres et aussi de pouvoir accompagner sur des projets. Alors parfois, effectivement, l'accompagnement peut être compliqué, mais effectivement, d'avancer, d'accompagner, de prendre par la main les personnes et que leurs projets aboutissent, ça c'est important. Puis là, actuellement, sur mes missions de chef de service, c'est aussi de pouvoir accompagner l'équipe du service pension de famille sur des projets. On essaye de s'atteler sur d'être efficace dans l'accompagnement individuel, mais également aussi sur la dynamique collective. C'est important de faire vivre ces structures, et on a axé un petit peu cette dynamique collective sur différentes taxes, sur la prévention, la promotion de la santé, sur la citoyenneté aussi, sur l'accès aux loisirs, ça c'est important. Et donc tous ces projets sont écrits en concertation avec les résidents, en fonction des besoins en vie des résidents. Et c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que c'est les résidents qui font vivre les structures, et les professionnels présents sur les sites qui font aussi vivre, qui apportent ce soutien et font aussi vivre avec les résidents ces différents projets, ces accompagnements, ces projets de vie.
Il y a une certaine fierté lorsque ces projets aboutissent?
Certaines fierté, c'est surtout... on est,
du travail bien fait, je veux dire.
On est heureux que ça se concrétise pour les résidents. Après, on a des personnes où on travaille des orientations ou qui accèdent à du logement autonome. Ça, on a eu hier justement un retour. On a un de nos résidents qui va accéder à du logement de droit commun. Ça, c'est un aboutissement. C'est un... c'est de l'accompagnement qui est effectué par les professionnels. Et le projet aboutit, voilà, on est satisfait. Et à chaque niveau, de pouvoir accompagner, c'est important. Et d'être en soutien des projets des personnes.
Et l'aspect Flandre, je veux dire, parce qu'on pourrait avoir l'image. Moi, ce qui me frappe, c'est que toutes les personnes de la pension disent qu'elles se sentent bien, côté stabilité, sérénité, tranquille. Alors que l'image qu'on pourrait avoir, c'est Flandre intérieur, c'est éloigné des métropoles, etc. Et en fait, les personnes s'y retrouvent. Alors évidemment, Guillaume le disait tout à l'heure, il y a toutes les activités que vous mettez en place par rapport à une famille, mais cet aspect rural, comment vous expliquez que c'est une bonne transition, alors qu'on pourrait se dire les personnes vont être très éloignées des administrations, etc.
La proximité peut-être.
Peut-être la proximité.
Oui, après, on est sur les Flandres, hein. C'est vrai que... Après, sur Bailleul, il y a quand même à proximité quand même un ensemble de partenaires. Il y a eu quand même un travail, les collègues travaillent énormément le travail de partenarial, de réseau, et qui est important parce que ça, il faut rappeler aussi qu'effectivement, quand on accompagne les professionnels, mettre en place son référent des résidents, mettre en place avec les résidents des projets personnalisés, où il y a différentes axes qui sont travaillées. Et ces axes, effectivement, on n'a pas de baguette magique et c'est de pouvoir travailler en lien avec les partenaires et de travailler la mobilité. Et finalement, sur Bailleul, c'est quand même une ville assez dynamique où il y a différents partenaires, aussi bien sur travailler autour des addictions, autour de l'emploi, autour des loisirs. Et c'est vrai que c'est quand même une ville assez dynamique, Bailleul, et je pense que effectivement, comme Thierry, je peux rebondir, il y a un temps d'adaptation. Parce qu'on a aussi des personnes qui viennent de la métropole lilloise, du Dunkerquois. Après, on a aussi des personnes des flancs d'intérieur. Mais il y a ce temps d'adaptation, effectivement, qui est le côté un peu plus rural, plus familial et parfois déstabilisant pour les personnes qui ont connu des grandes villes. Mais je ne sais pas, Thierry, si tu veux rebondir sur mes propos, puisque...
Ouais, moi, je rebondis. Moi, je viens de Lille. Il y a plus facile à circuler à Lille. Il y a le métro, oui. Il y a les bus, tout ça. Par rapport à Bailleul, ça fait un sacré changement.
Mais après, il y a des choses...
C'est plus facile les transports à Lille qu'à Bailleul. À Bailleul, le bus et le train.
Oui, c'est vrai, je rebondis un petit peu sur ce que vous dites au niveau de l'adaptabilité des résidents et qui vivent mieux aujourd'hui. Sur le Bailleul dans les Flandres, sur la métropole, je pense qu'on passe aussi de statut de personnes invisibles à des personnes visibles.
Ouais.
Dans une petite commune qui est Bailleul, qui n'est pas non plus exponentielle, où chacun trouve sa place, chacun peut avoir des places dédiées auprès des activités faites par les partenaires, et je pense que certaines personnes ont aussi besoin de couper avec ça, couper de cette de la métropole, redevenir une personne à part entière, redevenir aussi invisible, et oublier leur parcours d'errance, leur parcours de vie, pour recommencer quelque chose.
C'est anecdotique, mais moi je vois en étant Castellois, ici, tu croises quelqu'un, tu dis bonjour. Tout le monde se dit bonjour. Tu peux entamer une discussion, bon, après ça peut être des banalités, tiens, il fait beau, il y a du vent, il pleut, quel temps, il fait chaud. Mais ça crée un lien social.
Pareil, les gens, moi c'est ça qui me surprend, parce qu'à Lille... comme Paris.
À Lille, si j'ai dit bonjour à quelqu'un, on va se demander si tu cherches la bagarre.
Mais à Bailleul, les gens, ils disent bonjour, ils vous parlent avec vous. Mais à Lille, c'est pas comme ça.
Voilà. C'est un peu comme les chiens qui peuvent être des parfois un trait d'union entre les humains.
Mais je voudrais rebondir sur les activités. Il y a une dame qui nous enseigne pour arrêter de fumer. Il y a un atelier pour avoir les addictions, l'alcool, les cigarettes. Ça, c'est très intéressant pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Et il y a une dame aussi qui s'appelle Morgane qui nous enseigne pour. Tout ce qui est soins du corps.
Une ça, collègue du pôle du service logement qui intervient pour souligner.
Il y a des choses qui te font sentir bien.
Une sociosthéticienne.
Prends l'exemple banal de se raser.
Ouais.
La propreté, se laver les dents, tout ça, c'est du béaba, mais c'est ce qui te permet d'être bien dans ta vie. Quoi.
Il y a une autre activité aussi, c'est pour savoir manger. Voilà, c'est diététique.
Voilà. Et c'est important de manger.
Ça, c'est important. Et en plus, savoir gérer un budget. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas sur le curatelle, ceux qui gèrent son argent, le jour qu'ils prennent un appartement, qu'ils s'habituent à payer l'électricité, machin, pour taper.
Bien sûr.
Pour s'habituer à ça aussi. Si on veut... Voilà, ça, c'est un projet aussi qui est très intéressant.
On va repartir en musique, si vous voulez bien, avec le duo Pilas-Gillen. Radio Espérance 91.8, l'émission Retrait du Lion, et aujourd'hui et maintenant, en compagnie de Myriam. Oui. Bienvenue Myriam.
Bonjour, merci beaucoup.
Myriam, présidente d'une association qui s'appelle, c'est un peu mot barbare, PSAH. Ce qui signifie ?
Alors, ça veut dire au départ, Phobie Scolaire Association Hasbroucoise.
Donc, c'est une association qui aide les
départ,
enfants.
Au départ, c'était pour s'occuper des enfants qui font la phobie scolaire. Et puis, en découvrant, en aidant les gens, on s'est rendu compte que la phobie scolaire est déclenchée par pas mal de choses. Et
quand tu parles de phobie scolaire, c'est des enfants qui n'ont plus envie d'aller à l'école, qui ont
peur.
C'est ça.
C'est des enfants, ils ne dorment plus la nuit, ils font des cauchemars, ils font des angoisses, ils dorment le jour. Donc, ils vivent inversés.
À l'inverse.
Manger, ça devient compliqué. Ils s'isolent de tout le monde. Ils ne veulent plus voir personne. Ils sont souvent dans leur chambre à longueur de journée. Et puis, les mettre devant une école, ou les approcher d'une école, c'est très compliqué. Ils font des malaises, même, quelquefois. Donc,
et c'est quoi ? C'est la peur d'autres élèves ou des menaces ?
Justement, c'est là le problème. Moi, l'association a été créée à cause de ma petite-fille, parce qu'elle a déclenché une phobie scolaire en octobre 2018, sans raison. On ne savait pas pourquoi, parce qu'elle n'était pas harcelée, rien. On s'est demandé pourquoi, du jour au lendemain, comme ça, terminé, j'arrive plus à rentrer à l'école.
Elle devient anorexique, peut-être ? Elle mange plus ?
Plus vraiment, non. On ne peut pas dire vraiment anorexique.
Elle perd le goût de la vie.
Elle perd le goût de la vie. Il n'y a plus rien qui l'intéresse. Et donc, au début, elle faisait des maladies, ce qu'on appelle des maladies...
chroniques
Non, c'est le cerveau qui dit « mon corps ne va pas bien ». Donc, il réagit. C'est des maladies psychosomatiques. Et donc, elle a eu des arrêts scolaires à cause de ces maladies. Et le médecin, à un moment, il m'a dit « mais il n'y a rien à faire, quoi. Il faut quand même qu'elle réintègre l'école parce que vous allez avoir des problèmes. » Donc, on a essayé, mais pas moyen. Elle est arrivée jusqu'à avoir 5 de tension.
Oh là.
Le médecin ne comprenait même pas qu'elle était encore consciente. Et elle avait le cœur qui battait à 156 pulsations la minute. Donc là, il l'a envoyé directement à l'hôpital voir un cardiologue parce qu'il se demandait ce qui se passait. Et en fait, c'est le cardiologue qui a dit qu'elle est en grande dépression et c'est dû à sa phobie scolaire. Donc il nous a conseillé d'aller voir un pédopsychiatre. Alors ça a été la croix et la bannière parce que
trouver
un pédopsychiatre, c'est très compliqué. Les psychiatres, il y en a beaucoup, mais ils sont tous surchargés. Mais pédopsychiatre, c'est encore pire parce que c'est pour les enfants. Donc, on a cherché, et puis on a fini par trouver sur Armentières, le docteur de fac, qui était neuropsychiatre, mais aussi pour enfants. Donc, lui, il l'a suivi, il a reconnu qu'elle faisait de la dépression, il l'a traité pour la dépression, et il a fait un certificat comme quoi elle était inapte à l'école à cause de ça, et pour un temps indéterminé.
Aujourd'hui, elle s'en est sortie ?
Oui. Aujourd'hui, elle a déjà fait 2 formations. Une DVE, donc, c'est-à-dire une remise à niveau et un retour vers l'emploi. Après, elle a fait une formation pour agent d'accueil et secrétariat. Mais elle est retombée dans sa dépression, donc on a dû arrêter. Et là, aujourd'hui, elle fait un service civique dans une école maternelle.
Bah, c'est une bonne chose.
Ah oui, franchement.
Elle fonctionne de quelle façon, l'asso ? C'est toi qui vas vers les enfants ou vers les parents ou c'est le contraire ?
En fait, l'asso, déjà, c'est une association de parents, grands-parents, oncles, tantes, qui ont des cas comme ça dans la famille et qui ne savent pas comment réagir. Donc, après, il y a aussi des gens qui ont vécu la phobie scolaire eux-mêmes. Donc, les gens qui s'adressent à nous, ils sont dans le même cas que nous, c'est-à-dire qu'ils se demandent comment on va faire, comment les réintégrer à l'école et tout ça. Donc, ils nous appellent et nous, on les dirige directement vers un pédopsychiatre. Parce que sinon, après, ils ont des problèmes avec l'éducation nationale. En général, les parents sont quand même convoqués une première fois au CIO pour rencontrer l'inspectrice ou l'inspecteur académique avec le rappel à la loi et puis éventuellement qu'ils vont avoir 7 500 € d'amende et 5 ans de prison.
Là, ça calme tout de suite.
Ça calme tout de suite, mais les enfants, en général, quand c'est comme ça, les enfants qui subissent la phobie scolaire, ils sont là aussi. Mais du coup, pour eux, c'est encore pire. parce qu'ils se renferment encore plus à l'intérieur, sachant qu'ils ne vont pas être capables d'y aller et que peut-être leurs parents ils vont se retrouver en prison. Donc, c'est pour ça que nous, on dit qu'il vaut mieux aller voir un pédopsychiatre, voir s'il y a possibilité de faire un aménagement avec l'école pour que l'enfant ne soit pas complètement déscolarisé. Et ce que c'est vraiment pas possible, on fait une demande à l'académie pour l'instruction à domicile. Parce qu'en fait, c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction
oui.
qui est obligatoire. Donc on demande, avec des certificats médicaux, bien sûr, de pédopsychiatre, une instruction à domicile avec le CNED. Ou quelquefois, il y a des écoles, c'est rare, mais il y a quand même des collèges qui, ou des écoles primaires qui fonctionnent, qui donnent le devoir à la maison.
Il y a des points positifs qui ressortent de ton association ?
Oui, pas mal quand même, oui. Oui. Là, j'ai une petite qui habite d'ailleurs sur Cassel. Là, elle a trouvé son chemin pour l'instant, dans le commerce, je crois. Mais toujours avec des hauts et des bas. Hein. De toute façon, ouais. ça reste toujours. Hein.
Comme la dépression.
Voilà, c'est ça. Hop.
Eric ?
Oui, juste pour prolonger les questions de Bruno, c'était... C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu rapidement des échos positifs ? Vous avez réussi à installer cette association, vous l'avez créée ?
Oui, on l'a créée en juin 2019.
Est-ce qu'au niveau des institutions, vous avez eu des relais, ça a été facilité ou est-ce que ça a été compliqué ?
C'est compliqué.
C'est compliqué ?
C'est compliqué.
Et je pensais à l'éducation nationale notamment. Hein.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de collèges qui disent, oh ben non, il n'y a pas de phobie scolaire chez nous.
Tout va bien.
Bon, tout va bien. Alors, maintenant, on remarque de plus en plus qu'il y a de la phobie scolaire due au harcèlement, cyberharcèlement.
Ouais.
D'ailleurs, on soutient l'association Les Ailes de l'INSEE à Vendin-le-Vieil, la petite qui s'est suicidée suite à du harcèlement.
C'est quand même dramatique.
Oui, parce que là, la petite avait prévenu les parents, ils étaient intervenus à l'école, ils avaient appelé la police, ils avaient appelé la gendarmerie, ils avaient écrit à M. Macron, et ils ont été reçus par Mme Macron, mais rien n'a bougé, en fait. Et cette gamine, elle se faisait même battre. Il l'attendait à la sortie de l'école. Il l'a tirée par les cheveux. Elle en a vraiment vécu des vertes et des pas mûres. Le proviseur, il lui a même dit « Ah non, viens pas dire qu'il y a du harcèlement à l'école, il n'y en a pas.
Ouais. » C'est quoi par rapport à l'image de la marque de l'établissement ?
Oui, je crois, oui. Ils ont peur que ça donne une mauvaise réputation. Et puis, un soir, elle devait partir le lendemain dans une fête d'une amie. Et sa maman était partie faire quelques courses pour elle le lendemain. Et quand elle était en course, elle a reçu un appel de son compagnon qui disait qu'il fallait qu'elle rentre tout de suite. Il y avait un drame et puis la petite, elle s'était pendue.
Oh là là. Oui. Mais elle avait ?
13 ans. Elle allait avoir 14 ans, 2-3 jours plus tard.
Quel dommage. Comment tu vois le futur de l'association ?
En fait, l'association, ça marche vraiment au ralenti. C'est tout par période. Quelquefois, on a 4-5 appels d'un seul coup. Quelquefois, pendant...
Même mais ça a le mérite d'exister.
Comment ?
Mais ça a le mérite d'exister.
Oui, ça a le mérite d'exister, oui. Et puis, on a eu des demandes aussi au niveau des adultes. Parce que, comme du coup, on a rajouté le harcèlement, cyberharcèlement, tout ce qui est phobie, c'est-à-dire homophobie, biphobie, transphobie, enfin, tout ce qui est phobie. Ouais. Parce qu'il faut savoir aussi que les enfants qui font... de la phobie scolaire font de l'agoraphobie, c'est-à-dire
ils ont peur du public.
Ils ont peur du public, ils ne veulent plus sortir, plus rien. Donc l'agoraphobie aussi, enfin tout ce qui est phobie. On a fait la discrimination aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui deviennent phobiques à cause de la discrimination. Et là on est parti maintenant, on va changer nos statuts. Parce qu'on dit toujours on s'occupe de la sécurité de l'enfant. Mais on remarque qu'on a un cas d'ailleurs où il y a un placement abusif. Donc, du coup...
Vous allez prendre ça en main.
On va prendre ça en main, oui. Parce que là, on se bat depuis un an et demi avec cette maman et ses deux enfants. Tout le monde dit, enfin, tous les professionnels de santé disent que la maman est très bien, qu'elle s'occupe bien de ses enfants, qu'il n'y a pas lieu de placement, même la sauvegarde. Et la juge a décidé de les placer et elle a ordonné le placement immédiat. Comme il n'y a pas de place pour l'instant avec la maman, mais ils ont la corde au cou, quoi. D'un moment à l'autre, ils peuvent partir soit dans un foyer, dans une famille d'accueil. Et il faut savoir aussi qu'on travaille aussi sur ce qui est TDAH, TSA. Donc TDAH, c'est les enfants qui ont... qui font un peu de... Ils ne savent pas rester tranquilles... ils comprennent, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre, ils ont une vision des choses qui ne sont pas les mêmes que les nôtres.
Oui, différentes.
Et les TSA, bah, c'est les autistes. Donc c'est des enfants atypiques, comme on appelle, neuroatypiques. Et puis, bah, ces enfants-là ne sont pas compris. Ils sont rejetés des écoles, parce qu'il faut des écoles spécialisées, mais des écoles spécialisées, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est très compliqué. Ça fait un an et demi qu'on les suit, et là, on est décidé de continuer sur cette... Alors, par rapport au harcèlement, on a eu des demandes au niveau des adultes, parce qu'ils ont dit, oui, c'est bien, vous vous occupez des enfants qui sont harcelés, mais nous aussi, on subit du harcèlement, quelquefois au travail, ou des voisins.
Ah oui.
Et il n'y a personne qui s'occupe de nous. Donc, la dernière fois, j'avais étendu mes statuts sur le harcèlement, cyberharcèlement, enfants et adultes. L'homophobie, tout ça aussi, pareil, bah, enfants et adultes. Mais après, la priorité, ça reste quand même les enfants.
Eric, on va conclure, on arrive au terme de notre émission, on va parler brièvement de la toile solidaire.
Oui, je voulais revenir brièvement, Bruno, merci de me donner l'occasion, sur la plateforme d'initiative locale La Toile Solidaire, hein, qui est animée par Aurélie Grimel-Pont de la pension de famille Alepa à Bailleul, par Noémie Vandal du SAPA, du Cèdre Agir à Bailleul également, et par moi-même pour l'URIOPS Hauts-de-France. Redire que bah voilà, cette émission, c'est aussi grâce à Bruno Laubert
et à Radio Spiegel. Surtout.
Radio Spiegel, c'est le prolongement de notre plateforme, en quelque sorte, qui unit les associations du territoire de Flandre intérieure. On a une prochaine réunion la semaine prochaine, hein, qui a lieu d'ailleurs à la pension de famille, au sein de la pension de famille à Bailleul, la semaine prochaine, et qui va rassembler une dizaine d'associations sur des thèmes qu'on choisit. On aura une présentation notamment et de la loi France Travail, c'est de se dire que bah, des personnes comme Myriam vient d'évoquer son association ont leur place, hein, dans cette plateforme d'initiative locale, qui permet de rencontrer d'autres associations, pas forcément de leur secteur, ça peut être du secteur de la protection de l'enfance, du secteur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de la grande exclusion, mais on fait un lien aussi pour faire la promotion du travail social. Et Bruno, à travers vos questions tout à l'heure à Guillaume et Aurélie, vous l'avez montré, c'est aussi rendre visible le travail social sur un territoire qu'on ne connaît pas toujours. On disait tout à l'heure, les pensions de famille, on ne les connaît pas vraiment. L'association de Myriam, elle a besoin d'être davantage connue, et le travail social en général. Donc ça se veut modeste à l'échelle territoriale, hein, on ne refait pas le monde, mais au moins...
On fait quelque chose,
on essaie de faire ce lien, et vis-à-vis du grand public, hein, des personnes... du citoyen lambda, c'est de se dire bah, il y a des assos qui existent sur le territoire de France.
Bon, je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup, Bruno.
C'était une émission avec plein de témoignages, plein d'émotions et avec des belles personnes.
Tout à fait, merci à vous.
Un grand plaisir.
Je peux rajouter quelque chose ?
On n'a plus le temps, désolé. D'accord. Myriam. Et merci Anne pour la technique.